choix for people and the environment qui a été publié par l'Académie des sciences de New York. À vous, Monsieur Yablokov.
Я жду презентации на экране.
Alors j'attends qu'on mette la projection des diapositives à l'écran.
Пока настраивают презентацию.
Pendant qu'on prépare la présentation des diapositives à l'écran, je pense que je vais commencer mon exposé. On a déjà parlé ce matin du fait qu'il y a un écart considérable entre la vision officielle qui est défendue par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par l'OMS, ainsi que la CIPR, la Commission internationale de protection radiologique, et d'autre part les observations des conséquences de la catastrophe, les observations qui existent dans la littérature scientifique. Après la catastrophe de Tchernobyl, cet écart s'est accru de façon énorme. Il existe aujourd'hui, dans la littérature scientifique, au moins 10 000 publications qui concernent les suites de l'accident de Tchernobyl. Les sources officielles n'utilisent qu'une toute petite partie de ces publications. Les sources officielles utilisent les documents qui n'évoquent pas tellement les dangers. Les sources qui évoquent ces dangers ne sont pas utilisées, et ce, sous divers prétextes. L'un des principaux prétextes, c'est que l'on n'a pas démontré la corrélation entre les doses subies et la morbidité ou la maladie observée. Mais comment parler de corrélation si les doses, et cela a très bien été montré déjà ce matin, si cette notion même de dose et de risque depuis les années 50 est fallacieuse, est erronée? Cette notion a été pensée pour les besoins de l'industrie et pas pour les besoins de la santé humaine. Comment est-ce qu'on détermine les doses? On parle de doses équivalentes, on parle de doses effectives. Et les gens qui ne connaissent pas bien ce domaine considèrent que ce sont des données précises. Or, les doses sont déterminées sur la base d'une sorte de fantôme, d'une sorte de théorie abstraite. On prend un homme théorique de 20 ans, en bonne santé, de race blanche. On prend ce modèle théorique et on réfléchit à la façon dont les radiations ont un effet sur cet homme théorique, purement théorique. C'est à partir de ce modèle abstrait que l'on calcule les doses pour l'ensemble de l'humanité. On ne tient absolument pas compte de la différence entre hommes et femmes. Enfin, il y a quelques années maintenant, on nous a proposé deux fantômes pour chacun des deux sexes. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris l'ensemble des données concernant la catastrophe de Tchernobyl. Après la publication des travaux de recherche, on en a déjà parlé ce matin, cette publication absolument honteuse qui a été faite sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de l'OMS en 2005, lorsque ce qu'on a appelé le forum de Tchernobyl. Ce que nous avons fait, nous avons pris l'initiative de réunir l'ensemble des données qui avaient été étudiées, de ce que nous constatons au Bélarus, en Russie, en Ukraine, dans d'autres pays. On a rassemblé toutes ces sources. Et ce livre a été publié à Saint-Pétersbourg en 2007. En 2009, une édition en langue anglaise est parue à New York. Et l'an dernier, l'ouvrage a été, l'édition suivante a été publiée à Kiev. Nous publions maintenant, nous allons publier d'ici deux mois, une version en langue japonaise de ce livre à Tokyo, chez Iwanami. J'ai ici quelques exemplaires de l'édition parue à Kiev, donc je pourrai vous le montrer tout à l'heure. Nous estimons que dans ce livre, le collectif d'auteurs a uni ses efforts en se fondant sur plus de 5000 publications qui évoquent les séquelles, les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Pourquoi est-il si difficile de déterminer quelles sont ces conséquences? Pourquoi a-t-on des évaluations aussi différentes? D'un côté, les gens qui disent qu'il n'y a rien de terrible qui s'est passé, les autres disent que les conséquences sont catastrophiques. Pourquoi cet écart? Eh bien, parce que dès le début, et l'expérience de Fukushima montre exactement la même chose, dès le début, il y a un mensonge, une couverture, un secret qui a recouvert ces événements. C'était le cas en Union soviétique, ça a duré pendant 3 ans, et ce n'est qu'en mai 1989 qu'il y a eu un décret spécial qui a autorisé la publication de données concrètes sur le site de Tchernobyl. Il a fallu 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, toutes les données publiées étaient fausses. Il y avait des ordres secrets qui sont connus maintenant, qui disaient interdiction de publier. Tout cela figure dans les documents officiels. Comment peut-on, après cela, évaluer si les cas de leucémie sont liés ou non, puisqu'ils apparaissent immédiatement? D'ailleurs, les données les plus confidentielles, par les sites de risque d'irradiation, calculés par les organisations internationales, ce risque d'irradiation est partout. Il est calculé sur la base de ce qu'on appelle les cohortes japonaises, après les bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki. Mais là aussi, pendant 4 ans, toutes les données ont été couvertes par un secret absolu. Pendant 4 ans, il n'y avait aucune publication sur le nombre de cas de leucémie ou de cancer. Les forces d'occupation américaine ont interdit les travaux de recherche au Japon. Et ce n'est qu'en 1950 qu'on a commencé à établir les statistiques. Comment faire pour faire des données, des recherches sérieuses sur ces données qui ont été falsifiées délibérément, puisque les données les plus importantes des premières années ont été secrètes. Donc il est très difficile de déterminer les doses individuelles. Pourquoi? Comment est-ce qu'on les calcule? On calcule en moyenne combien une personne a bu d'eau, a respiré d'air, a mangé tel ou tel légume à feuilles, a-t-il mangé de viande, etc. On prend des données qui concernent peut-être un dixième de la population du Bélarus et on fait ensuite, on extrapole ces données à l'ensemble de la population. C'est ridicule. Ce serait, il y aurait de quoi rire s'il n'y avait pas de quoi pleurer. Nous savons que tout accident de type météorologique, Fukushima comme à Tchernobyl, émet une très grande quantité de radionucléides très différents qui sont dispersés comme l'iode à courte période, qui a une période de 2 mois et demi à peu près, qui ensuite disparaît de l'environnement, et personne ne peut déterminer qui a reçu une dose d'iode pendant ces 2 mois et demi et quelle est cette dose. Mais il y a des dizaines d'autres radionucléides qui, eux, ont une période plus longue de plusieurs mois, de plusieurs années, et nous estimons, on fait des calculs sur le césium, qui est plus facile à calculer, c'est un peu plus difficile pour le strontium. On s'occupe surtout du césium, parce que c'est plus facile. Alors, les calculs en ce qui concerne les doses de césium excluent les calculs sur le strontium, sur le plutonium et sur des dizaines d'autres radionucléides qui ont été dispersés, qui ont agi sur nous, mais que nous ignorons leurs effets. C'est pourquoi l'exigence de cette corrélation significative, c'est l'exigence de l'AIEA et de l'OMS, qui exige donc une corrélation étroite entre les doses et les effets. Eh bien, il est impossible d'établir cette corrélation, et scientifiquement, cette démarche est erronée. Comment faire pour obtenir des informations objectives, des informations réelles? Eh bien, comparons les territoires, la population des territoires qui sont absolument identiques sur le plan géographique. Comparons les territoires naturels avec une économie identique, une même composition ethnique de la population. Mais la seule différence, c'est le niveau d'irradiation, le niveau de pollution radioactive qu'on peut mesurer par des compteurs Geiger dans l'air, dans l'eau, dans le sol. On peut déterminer le niveau de pollution radiologique. Bien sûr, ça peut poser des problèmes de méthode, mais on peut y arriver. On peut à ce moment-là comparer la mortalité la morbidité, deux groupes identiques avant l'accident et après l'accident. On peut comparer les mêmes personnes avant la catastrophe et après la catastrophe. Voilà, ça on peut le faire. Et cela peut nous donner des données objectives, des résultats objectifs des suites de la pollution radiologique. Qu'obtient-on en faisant ce calcul? On constate que ce sont tous les systèmes de l'organisme qui subissent des altérations négatives après la catastrophe de Tchernobyl. Le système sanguin, le système endocrinien, le système immunitaire, le système respiratoire, le système urinaire, les organes de la reproduction. Tous les systèmes, tous les organes humains montrent des effets négatifs de l'irradiation. Quelques exemples maintenant, parce que j'ai peu de temps, et je voudrais simplement m'en tenir à quelques exemples parlant. Le syndrome de Down, donc les AVS, c'est la... la trisomie 21. Vous voyez à gauche le Bélarus et on voit en 1986 un pic considérable des nouveaux-nés atteints du syndrome de Down. On constate exactement le même pic, exactement la même période à Berlin-Ouest. Là, on avait des données hebdomadaires, donc c'est encore beaucoup plus précis cette année. À Berlin-Ouest, on avait des données extrêmement précises. On a là quelque chose qui est absolument fiable. Et regardez ensuite le niveau du syndrome de Down à Berlin et surtout au Bélarus, donc c'est la deuxième ligne droite, qui reste à un niveau beaucoup plus élevé. Comment se fait-il qu'après avril 1986, on ait un pic des cas de syndrome de Down? Expliquez-nous cela. Nous l'expliquons par la pollution de Tchernobyl. C'est le strontium, le plutonium, le césium, l'iode, etc., etc. On ne peut pas faire le détail. On dit voilà l'effet clair de la pollution radioactive due à Tchernobyl. Il n'y a pas d'autre explication possible. Voilà tous les cas de cancer solide au Bélarus. Tous les cancers, en d'autres termes, sauf la leucémie, le cancer du sang. Dans le monde entier, le niveau des maladies oncologiques croît. C'est dû à la pollution chimique de l'environnement. Ça s'explique par la population radioactive et une croissance qui s'explique notamment les essais atomiques dont on a déjà parlé ce matin vont encore avoir leurs effets pendant des siècles. Pendant des siècles, nous allons encore recevoir les radionucléides qui ont été émis dans l'atmosphère au moment de la guerre froide. C'est la raison qui explique la croissance du nombre de cancers dans le monde. Mais voyez ici la croissance du cancer et on trouve des courbes de ce genre en Russie, en Ukraine, au Bélarus. Après l'année 1986, vous constatez l'augmentation et la différence entre la tendance générale qui est en trépied et les cas réellement observés, voilà l'effet de Tchernobyl. Plus en détail maintenant, les données concrètes sur la Russie, dans trois régions de la Russie. Là, il y a l'ensemble de la Russie, c'est la ligne du bas. Au milieu, vous avez la moyenne de la région de Kaluga, qui a une pollution moyenne à la suite de l'accident de Tchernobyl. Et en haut, la région de Bryansk, où cette pollution est plus importante. Vous voyez la quantité de cancer. Là aussi, ce sont des données précises, des données qui viennent de l'Académie des sciences. Ce n'est pas moi qui ai réuni ces données, ça a été publié dans des monographies très importantes. On voit comment peut-on expliquer cela? Par une seule chose, par la catastrophe de Tchernobyl. Il n'y a pas d'autre facteur qui permet d'expliquer ce graphique. Parmi les conséquences de Tchernobyl, les malformations congénitales, on préfère ne pas en parler en général. Moi, j'en parle avec une douleur considérable. Les images qui vont venir sont pénibles à voir, mais je dois les montrer, je veux les montrer, parce qu'il faut qu'on sache, il faut que la vérité soit là. Il faut qu'on sache ce qui se passe après les radiations. Il y a en outre un phénomène de vieillissement prématuré. des enfants montrent des signes de maladie que l'on constate chez les personnes âgées. L'âge biologique est différent de l'âge réel, de 3, de 4, de 5, de 6 ans. Il y a beaucoup de mutations qui se produisent. Il y a la polymorbidité, c'est-à-dire que beaucoup de personnes réunissent un grand nombre de maladies. Tout ça, c'est la suite de l'irradiation. Les malformations congénitales dues à Tchernobyl sont particulières. Il y a des malformations congénitales dans tous les pays. Ce sont des cas isolés. Mais après Tchernobyl, il y en a un nombre extrêmement nombreux. L'irradiation cause des malformations particulièrement typiques. Le cas de ces jambes, c'est particulièrement caractéristique. Il y a un grand nombre de naissances. Il y a des milliers d'enfants malformés qui sont nés. On a créé des établissements spéciaux pour enfants sur le territoire de nos pays pour accueillir ces enfants. Voilà des données très précises sur un petit district de l'Ukraine. Le district de Lugini. Ce sont les mêmes médecins, ce sont les mêmes observations. Voyez ici, sur ce graphique, le nombre de cas avant Tchernobyl, en 1983, nombre d'enfants nés avec des malformations congénitales. Il y a à peu près 30 000 habitants dans ce district, et chaque année, on avait à peu près 1 000 naissances par an, et vous voyez qu'on avait à peu près 5 cas de malformations congénitales à la naissance. Vous voyez la croissance après 1986, après 1987, plus précisément, on voit l'augmentation du nombre, un pic après 5-6 ans, et ensuite une baisse. Voilà la trace de Tchernobyl. Comment peut-on expliquer cette croissance dans un petit district avec les mêmes médecins, la même population, les mêmes observations? Il n'y a pas d'autre facteur d'explication que la catastrophe de Tchernobyl. Mais officiellement, on n'en tient pas compte. Officiellement, on considère que ce n'est pas une conséquence de Tchernobyl. Il y a des informations. On peut examiner, on peut déterminer la quantité totale de radiation qui est émise par l'accident du Tchernobyl. Il y a des querelles de scientifiques, mais on peut, sur le plan physique, estimer la quantité de radionucléides émise. Et ensuite, on peut déterminer combien de cancers ont provoqué ces émissions radioactives. Comme les radionucléides de Tchernobyl se sont répandus, pas seulement en Union soviétique, mais dans toute l'Europe, sur le territoire de l'Union soviétique, on n'a que 43% des retombées de Tchernobyl. Tout le reste est retombé en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. On a fait des calculs. Monsieur Malko, qui est un épidémiologue, un médecin d'un institut en Bélarus, a fait des calculs. Combien de cas de cancer vont apparaître dans les générations de Tchernobyl jusqu'en 2056 dans tous les pays européens? Bien, en Suisse, 1500 cas de cancer supplémentaires, dont 800 cas mortels. Et ainsi pour chaque pays. Tout ça est fondé sur les données officielles quant à la quantité de radionucléides qui sont tomber sur le territoire de ce pays. Ce sont des données qui sont publiées. Il y a un énorme atlas en Europe qui a été publié. On peut constater combien de césium est retombé sur ce territoire. Je peux m'arrêter là, si vous le souhaitez.
Okay, thank you.
2 minutes. Alors, on parle de radiophobie. Et on en parle aujourd'hui au Japon. De quoi parle-t-on? Comment des cobayes, comment des grenouilles pourraient souffrir de radiophobie? On constate les mêmes mutations chez eux que chez l'être humain. C'est de la propagande de parler de radiophobie. C'est de la propagande pro-nucléaire. Ce n'est pas un argument sérieux. Et l'OMS dit que la quantité totale de morts liées à la catastrophe de Tchernobyl sera de 9 000 décès. Nous disons non, ce n'est pas possible. Regardez les chiffres sur la mortalité infantile en Suisse, en Norvège, en Suède, en Finlande. Dans tous les pays, on peut constater cela. Regardez les courbes, regardez ce qui se passe après 1986. Vous voyez la courbe régulière. Pourquoi a-t-on cette bosse qui se manifeste dans tous les pays? La mortalité infantile a augmenté en Suisse, en Norvège, en Suède, etc., etc. Je ne parle même pas des cas de la Russie, du Bélarus et d'autres pays de l'ex-URSS. On peut faire un calcul. On a fait un calcul précis dans 6 régions qui ont été fortement contaminées en Russie. Et on a comparé avec 6 régions moins contaminées. En 15 ans, la mortalité a augmenté d'environ 4%. 4%, c'est 237 000 décès supplémentaires. Si on fait le calcul, c'est 237 000 décès supplémentaires. Et on extrapole, on parle du territoire qui a été contaminé avec un curé par kilomètre carré. Et sur la base des données officielles, des cartes, des atlas, on calcule les retombées en Europe, en Amérique, en France, en Asie, partout dans le monde. Par extrapolation, on arrive à un chiffre d'environ 1 million. Pas 9 000 morts, mais 1 million de décès supplémentaires sur les 15 premières années. Ok.